The CIUT Spring Membership Drive, The Sound of Your City, may be over on air, but the campaign continues off air, and your support goes towards keeping the radio station operational, upgrading facilities, developing programs, and ensuring the sound of your city stays on the air. Go to www.ciut.fm to donate today.
Celebrating 15 years of Lula Lounge, Toronto's home to Latin and global music, the 2017 Lula World Festival features new projects and international collaborations led by local, jazz, funk, urban, and global musicians, running from June 1st until the 11th. This year, Lula World includes three generations of Cuban Congo, featuring the legendary Candido with Jane Bennett, Toronto's own Kike Escamilla, and longtime Dizzy Gillespie band member, jazz guitarist Ed Cherry. Visit lulaworld.ca for additional details.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Celebrating 30 years on the FM dial. Stream CIUT or listen to recent shows at www.ciut.fm.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at ciut.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Et oui, mesdames, messieurs, tout au long du mois de juin 2017, mois des fiertés, nous allons revoir les réalités de la communauté LGBT, les luttes, les victoires, les défis. Tout au long du mois de juin, soyez-y sur Potpourri CUT 89,5 FM. Nous recevrons à nos micros les membres engagés de la communauté LGBTQIA et les correspondants des radios partenaires. Découvrez les activités des associations de la région et dans le monde de la littérature LGBT. Un quiz, les meilleurs bars, clubs et cabarets alternatifs de Toronto, des animations à gogo et un verre de l'amitié dans le village gay de Toronto. CUT 89,5 FM vous donne rendez-vous, mois de juin, mois des fiertés gays à l'antenne.
Avec ses milliers d'événements d'un bout à l'autre du pays, 2017 s'annonce exceptionnel.
Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.potpourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo. Et oui, 27e édition du festival Inside Out de Toronto. Nos salutations aux Franco-Manitobains et aux Haïtiens à Port-au-Prince qui sont à l'écoute, ainsi que les participants du sommet numérique d'Haïti. En direct de Hot House Studio, la radio campus de l'Université de Toronto, où que vous soyez à travers le monde, on vous souhaite la bienvenue. Et oui, bienvenue à votre magazine hebdomadaire de la francophonie sur CUT 89,5 FM, live, en direct sur www.cut.fm. L'ingénieur du son aujourd'hui est le DJ Devera, au microphone Eric Adair. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de plusieurs invités du Manitoba et de Toronto, ici avec notre collaboratrice et partenaire Caroline Lebrec. Bonjour.
Bonjour.
Et au menu aujourd'hui, ce dimanche 28 mai, lancement du livre « Le Manitoba français 1946 », un beau projet éditorial avec une emphase sur le rôle important de la radio CKSB auprès des communautés francophones et anglophones du Manitoba. Nous allons recevoir plusieurs invités à ne pas rater dès 11h30 aujourd'hui, de Manitoba bien sûr et de Toronto. Mon édito du dimanche, eh ben, cette nouvelle qui continue à faire des vagues partout dans les réseaux sociaux et dans les médias francophones, surtout en Ontario, la désignation de Madame Madeleine Meyer, ancienne ministre du gouvernement de l'Ontario, en tant que nouvelle commissaire à la Commission des langues officielles, sème l'inconfort. La Fédération des communautés francophones et acadiennes a réclamé des précisions, tenez-vous bien, au Premier ministre Trudeau, qui est actuellement en Europe, quelque part dans un avion sans doute, en de retour de l'Italie. Et oui, ils veulent savoir un peu, enfin, avoir des informations, des précisions sur le processus de nomination Quelle est votre opinion? Nous attendons vos réactions à pot.pourri@sympatico.ca ou encore sur Twitter @popourrichaud ou encore facebook.com/popourrichaud.com. Sommet numérique Haïti 2017, une première du 6 au 7 juin prochain. La première république noire indépendante du monde accueille des centaines de leaders mondiaux, des entrepreneurs, des spécialistes en marketing numérique à l'hôtel Royal Decameron Indigo. Ça me donne déjà le goût d'aller dans cette île. C'est un joyeux de l'île d'Hispaniola, situé sur la côte des Arcadins. Vous êtes déjà allé? Non?
Non.
Non? Alors, peut-être nous aurons la chance d'y aller. On a encore quelques jours d'ici le 6 juin. Et nous allons recevoir, si tout marche bien par la magie de la technologie, justement, Marc-Alain Boursicot, qui est cofondateur, cofondateur et directeur de support aux initiatives jeunesse du groupe Eco-Haïti. Ce monsieur, jeune, fait des choses très intéressantes dans son pays. Et oui, le festival de films lesbiens, gays, bi, trans, Toronto bat son plein. Avez-vous vos billets? Vous avez jusqu'au 4 juin, 27e édition du festival Inside Out de Toronto, qui met en vedette le meilleur du cinéma LGBT international et au programme toujours des drames puissants, des documentaires pleins de légèreté, des comédies hilarantes et des films indépendants innovateurs. Bref, de purs moments d'émotion cinématographique. Et nous avons des billets pour vous, si cela vous intéresse, allez sur le site www.insideout.ca. Et merci à la Banque Royale du Canada. Et puis, je vous rappelle que nous allons aussi descendre, c'est la dernière journée d'ailleurs, Cannes 2017. Quels sont les films favoris pour la Palme d'Or? Après une dizaine de jours en immersion sur la croisette, nos critiques de RFI, critiques de cinéma, dévoilent leur coup de cœur dans la deuxième heure et peut-être leur coup de griffe aussi sur les films en compétition, collaboration spéciale RFI en direct sur la croisette, à ne pas rater. Et puis les découvertes musicales du Tchad à Montréal et en passant par les lauréats des Victoires de la Musique 2017 à vous faire rêver, à ne pas rater. Et tout au long du mois de juin, comme je l'ai annoncé au début, mois des fiertés, 30 ans en tant que témoin des réalités LGBT, les luttes, les victoires, les défis. Soyez les nôtres et si cela vous intéresse à y participer ou encore à parrainer une de nos émissions au mois de juin, eh ben, vous envoyez un message immédiatement à pot.pourri@sympatico.ca et restez branchés sur facebook.com/popourrichaud ou sur Twitter ou encore vous pouvez télécharger l'émission tout au long de la semaine www.popourrichaud.com. Popourrichaud, 30 ans déjà, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Marseille, un éternel enfant, je lui fais la courte échelle. Pour qu'il traverse le temps, je lui dirai les quatre L et les droites de Cerdan et les chansons de Cabrel que je lui chante en l'endormant. Allez, joue gamin, joue gamin, vas-y, joue dans le vent. Allez, joue gamin, joue gamin. De Pagnol, tu sais, Marcel, tu en as déjà l'accent. Je ferai que ta vie soit belle. Tu fais partie de mon clan. Tu chanteras cette ritournelle un jour peut-être à tes enfants. Allez, joue gamin, joue gamin, vas-y, joue dans le vent. Allez, joue gamin.
Et que le vent t'emmène, et que le temps.
tourne dans le vent. Il y a des carrosses et des caravelles. Parfois tu montes, parfois tu descends. Oui, la vie est un carrousel. Choisis ta place dedans. Mais ne choisis pas la plus belle, mais celle qui te plaît vraiment.
Et oui, Christophe Maé, madame, monsieur, des lauréats des victoires de la musique année 2017. D'ailleurs, il y avait plusieurs belles voix, des nouveautés de la chanson française, africaine, anglaise aussi, aux victoires de la musique en France. CUT 89,5 FM vous souhaite un bon brunch.
Ça tourne pour moi, quand tu veux.
Tout le monde écoute RFI. Tout le monde écoute RFI.
RFI. RFI.
RFI.
RFI.
RFI.
RFI.
RFI, la radio du monde.
Et oui, vous aimez bien cette chanson, Caroline, n'est-ce pas?
Oui, j'ai trouvé que c'est une belle chanson.
Alors, nos amis nous attendent de l'autre côté du monde. Non, c'est toujours au Canada, le Manitoba. On va parler aussi du Manitoba d'antan, mais aussi du Manitoba d'aujourd'hui. Pourquoi pas? L'évolution de la communauté francophone. Y a-t-il des services en français? Y a-t-il des cours à l'université de Manitoba? Et on fera le point sur un voyage extraordinaire sur la petite histoire de la francophonie, leur lutte, les défis. Et aussi, il faut parler de cette radio. Comment une radio peut créer un lien de dialogue entre deux solitudes? Moi, j'aime bien dire qu'il y en a plus que deux solitudes, n'est-ce pas? Et la communauté autochtone, les Cris et les Inuits et les autres. Alors, les buzz de nos médias partenaires, rapidement. Le député de Saskatchewan, Andrew Scheer, est-ce qu'il parle français? Est devenu le nouveau chef du Parti conservateur du Canada. Ça s'est passé hier soir. Vote très, très serré, hein, qui a nécessité 13 tours à Toronto. Le Québécois Maxime Bernier est arrivé deuxième. Très déçu, on fallait voir sa tête. Et tout ça au terme d'une soirée pleine de suspense. Qui gagnera la Palme d'Or au Festival de Cannes 2017? Avez-vous des favoris? Non, pas encore.
Non.
Alors, parmi les quelques films qui ont retenu notre attention et qui ont fait sensas au Festival de Cannes, c'est son premier long métrage à 40 ans. Le cinéaste algérien Karim Massoui a percé dans la sélection officielle de Cannes, tenez-vous bien, le plus grand festival de cinéma au monde. En attendant, Les Hirondelles, qui raconte la réalité de l'Algérie d'aujourd'hui à travers trois histoires, celle du promoteur immobilier Mourad, de la jeune fille Aïcha, et celle du passé lourd de neurologue Daham. Et oui, l'amant double du réalisateur français François Ozon est en sélection officielle au Festival de Cannes aujourd'hui. C'est dans quelques heures, hein, d'ailleurs, vous pouvez aller suivre tout ça en direct sur www.rfi.fr. Et oui, ce film, l'amant double de Ozon, du sexe, des fantasmes et une bonne dose de perversité. Voilà, le réalisateur fait monter la température. Ça s'est passé vendredi à Cannes avec ce thriller détonnant sur la relation trouble d'une jeune femme avec son psychanalyste. Le jury a décerné la Queer Palm au film de Robin Campillo. Je ne savais pas qu'il y avait un Queer Palm. 120 battements par minute, un film sur le sida.
Peut-être un jour on aura l'occasion de le voir ici à Toronto. Présenté en sélection officielle, le long métrage s'intéresse à la vie de plusieurs militants d'ACT UP de Paris. Au début des années 90, il a ému toute la croisette lors de sa projection. Et le Queer Palm Hornet du court-métrage a été attribué au film Les Îles de Yann Gonzalez, un film troublant et profondément queer, onirique et sans concession selon le site Unicorn Booty. Le Festival de Cannes s'achève ce soir, heure de France, bien sûr, avec la remise des prix par le jury présidé par Pedro Almodovar. Et oui, la Queer Palm deviendra-t-elle aussi peut-être la Palme d'Or? Qui sait? Réponse dans quelques heures. Et ce dimanche 28 mai, la Palme d'Or du Festival de Cannes sera décernée par le jury présidé par Pedro Almodovar, comme je vous l'ai dit, en attendant le verdict de la remise de la Palme d'Or incrustée de diamants créée pour la 70e édition. Le faire. Hein. Alors, dans la deuxième heure, nous allons voyager sur la croisette grâce à Sophie Torlotin et Isabelle Chenu qui sont sur la croisette qui nous attend pour nous donner leur coup de cœur. Mon édito aujourd'hui, et oui, la nomination de Madame Meyer à titre de commissaire aux langues officielles du Canada ne fait toujours pas l'unanimité, à tel point que l'on peut s'interroger sur la validation de ce processus. Annoncé par le Premier ministre Justin Trudeau le 15 mai dernier, la nomination de l'ancienne ministre déléguée aux affaires francophones de l'Ontario, que nous connaissons très bien, qui est passée plusieurs fois à cette émission, eh ben, cette nomination doit encore passer par la Chambre des communes et le Sénat en tant que poste d'agent indépendant du Parlement. Un parcours qui pourrait être semé de quelques embûches, selon le politicologue de l'Université d'Ottawa, M. Martin Normand. Si les libéraux sont majoritaires à la Chambre des communes, il y a en revanche une possibilité que le Sénat refuse cette nomination. Il faudra voir si les sénateurs francophones feront preuve de solidarité vis-à-vis des groupes communautaires francophones. Du côté des organismes francophones hors Québec, d'ailleurs je suis tellement content de parler des francophones hors Québec parce qu'on parle toujours des francophones du Québec et aujourd'hui on va parler des francophones du Manitoba, des francophones hors Québec de l'Ontario et ailleurs, de l'Acadie par exemple. Toutes ces communautés sont très importantes pour la vitalité même de la langue française, de la culture francophone au Canada, n'est-ce pas? Donc, le conseil d'administration de ces communautés, la Fédération des communautés francophones et acadiennes, se sont rencontrés et pour discuter de la controverse entourant le processus de nomination de Mme Meyer. Ce processus ne fait toujours pas consensus au sein de communautés francophones et acadiennes et ils s'inquiètent de l'impact de cette situation sur les citoyens de langue française qui vivent en milieu minoritaire. Et selon un communiqué de presse émis par cette association cette semaine, et suite à ma conversation avec un membre de la Fédération des communautés francophones et acadiennes vendredi, je sens qu'il y a un manque de confiance entre cet organisme et le gouvernement de M. Trudeau. C'est la première fois d'ailleurs qu'une telle chose se produise au sein de la communauté francophone. Dans ce contexte, cet organisme demande de toute urgence, je dis bien de toute urgence, une rencontre avec le Premier ministre Trudeau. Il est plus important que jamais de clarifier de quelle manière le gouvernement du Canada prévoit protéger l'intégrité de la fonction du commissaire aux langues officielles. Il est essentiel que le Premier ministre du Canada entende les communautés sur ces questions. Et aux yeux des organismes membres de la Fédération, le ou la commissaire aux langues officielles est plus qu'un simple agent du Parlement et un chien de garde. Il est aussi souvent le dernier recours des francophones lorsque leurs droits linguistiques sont lésés. Donc, le choix de Mme Meyer par le libéral de M. Trudeau reste dénoncé par les partis d'opposition comme une décision partisane. Pour Éric Forge, directeur de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, tout est encore possible du côté de la Chambre haute. Il va falloir surveiller l'influence que peut exercer le Comité permanent des langues officielles au Sénat. C'est à suivre. Après plus de 30 ans au Canada, je dois vous avouer que c'est la première fois qu'on assiste à une telle situation. Un auditeur et membre régulier de notre émission, très engagé dans la communauté francophone de Toronto, que peut-être vous connaissez, qui veut garder l'anonymat, m'a dit « Je pensais que Mme Meilleur avait pris sa retraite. Je suis, M. Kader, un peu confus, surpris par son intérêt à accéder à ce poste, un poste permanent à l'échelle du pays. Pouvons-nous, s'il vous plaît, avoir du sang neuf, du renouveau ?» Voilà, dossier à suivre. Et nous tenterons d'appeler le bureau du Premier ministre Trudeau et je vous donnerai des nouvelles. À bon entendeur, salut! Employeur, employé, connaissez-vous vos droits? Droit du travail en direct sur CUT 89,5 FM. Pour célébrer notre 30e anniversaire à l'antenne, nous sommes heureux de vous proposer une nouvelle chronique et un nouveau collaborateur et partenaire. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître Lamarche. Une fois par mois, Maître Lamarche du cabinet d'avocats Signe Lamarche, situé à Toronto, répondra à vos questions. Congédiement injustifié, congé de maternité, congédiement déguisé, droits de la personne, les obligations fiduciaires, les obligations post-emploi, le harcèlement au travail, les normes d'emploi, l'interprétation contractuelle, la rémunération pour des heures supplémentaires, les questions liées à la communauté LGBTQIA et les indemnités de départ. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître Lamarche en direct à l'antenne.
The sound of your city. CIUT 89.5, Toronto. Listen to us on the go with TuneIn Radio's free app or go to the live stream at www.ciut.fm. Right here, right now, every day. CIUT 89.5 FM.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Popourichaud littéraire.
Potpourri Show et CUT FM sont fiers de vous présenter le lancement du livre « Le Manitoba français 1946 ». Cet ouvrage met en lumière le combat de Pierre Laporte, journaliste au journal Le Devoir et ministre des Affaires culturelles pendant la Révolution tranquille au Québec. Il était réputé pour appuyer les minorités françaises dispersées à travers le continent nord-américain. Le Manitoba français met aussi l'emphase sur le rôle important d'une radio CKSB auprès des communautés francophones et anglophones du Manitoba. Et parmi mes invités aujourd'hui, Dominique Laporte, éditeur scientifique, professeur au département de français de l'Université du Manitoba et vice-président de l'Alliance française du Manitoba. Michèle Keller, doctorante et collaboratrice à l'Université du Manitoba. Caroline Lebrecq, professeure, éditrice responsable du projet, responsable de liaison au département d'études langagières, campus de Mississauga à l'Université de Toronto et collaboratrice de Potpourri Show. Bonjour, rebonjour.
Bonjour.
Alors, le Manitoba français de Pierre Laporte, imprimé grâce à la générosité, il faut bien le dire, des bienfaiteurs de l'Association des professeurs de français des universités et collèges canadiens. D'ailleurs, il y a un colloque en ce moment.
Oui,
déroule.
L'APFUC.
Oui. Ouais,
et le colloque, pardon, c'est le congrès des humanités et sciences sociales en général.
Mm-hmm. Et les gens connaissent peut-être mal qu'il y a justement cette association des professeurs de français, des universités, des collèges canadiens. Donc ça fait beaucoup de monde.
Ça fait beaucoup de monde, oui, oui. Et c'est, on va fêter les 60 ans de cette association l'année prochaine. Et il y a beaucoup, il y a de plus en plus, il y a un bel engouement en ce moment. Depuis quelques années, le colloque annuel attire de plus en plus de monde avec des ateliers très intéressants et des invités que l'on arrive à avoir qui viennent du monde francophone participer avec nous.
Le Manitoba français, parlez-nous un petit peu de l'origine, de la genèse de cet ouvrage.
Alors, donc l'APFUC a une collection qui s'appelle Les publics de l'APFUC. Ce sont des plaquettes et le Manitoba français en est le sixième numéro. Donc la collection a commencé en 2010, lancée par un collègue, Sébastien Côté, et dont j'ai repris la suite. Donc nous faisons un appel à projet à nos membres pour voir quel collègue aimerait porter le projet pour publier un texte que l'on ne trouve plus dans les bibliothèques ou un texte inédit ou un texte non censuré qui a déjà été publié mais censuré et dont on va publier l'édition intégrale en tout cas. Et donc il y a 2 ans on a fait un appel à projet et on a reçu entre autres celui de Dominique Laporte sur le Manitoba français qu'on était ravis d'inclure dans notre catalogue de publication.
Alors c'est très intéressant de voir de la façon dont il s'est pris, enfin il y a plusieurs collaborateurs sur ce projet qu'on va nommer plus tard, mais tout d'abord pour les francophones, les auditeurs, mais aussi surtout les immigrants francophones qui nous écoutent et qui connaissent pas très bien la diversité de la communauté francophone à travers le Canada. C'est un grand, vaste territoire, n'est-ce pas? Je sais, quand je vais en Europe, les gens trouvent toujours qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment on arrive à vivre dans ce vaste territoire. Il faut rappeler aux gens qu'on change même d'heure dans certaines régions, pas très loin du Manitoba d'ailleurs, de Winnipeg à Kenora, où il y a un décalage de 2 heures. Et donc, rappelons que le Manitoba est reconnu comme une terre d'accueil en raison de sa pluralité ethnique et culturelle. Cette province accueille dignement de plus en plus les personnes immigrantes, y compris des francophones. Et le gouvernement du Manitoba participe activement dans les démarches de recrutement, je dis bien de recrutement, de nouveaux arrivants d'expression française désirant s'établir en Amérique du Nord et au Manitoba. Je ne sais pas si vous êtes allé, mais il fait très froid.
Ah non, je n'y suis pas encore allé.
Alors, Saint-Boniface est statistiquement reconnue comme la deuxième plus grande communauté francophone au plan volume et densité à l'extérieur de la province de Québec. La gamme de services éducationnels, d'affaires, financiers, gouvernementaux, culturels et de santé qui sont offerts dans les 2 langues officielles est impressionnante. Au cours des dernières années, les programmes d'immigration des gouvernements provinciaux et fédéraux ont inclus de plus en plus de stratégies diversifiées et des politiques d'immigration. Alors, je vous parle de tout ça parce que ce qui est très intéressant, c'est que vos collègues nous plongent dans le Manitoba des années 30-46 et où on voit que la religion, l'Église catholique, par exemple, les journaux aussi, Le Devoir et tant d'autres politiciens au Québec ont étudié, si vous voulez, ce va-et-vient dans la communauté francophone et même en Amérique du Nord, parce qu'il y a même, ils se sont intéressés jusqu'aux personnes vivant en Haïti, alors, et la Louisiane. Et à l'époque, ça devait être un défi énorme, n'est-ce pas?
Oui, certainement. Je pense que Dominique Laporte pourra nous parler de ça bien plus en détail que moi. Mais c'était intéressant pour nous de donner une place à ces francophones de l'Ouest auxquels on ne pense pas toujours, alors que Saint-Boniface, comme vous l'avez rappelé, Éric, est une communauté francophone très importante au Canada.
Oui. Alors, je pense que nous avons M. Dominique Laporte, qui est éditeur scientifique, professeur au département de français de l'Université de Manitoba et vice-président de l'Alliance française du Manitoba. Bonjour.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, merci. Alors, je salue Caroline Lebrec et tous nos autres collègues de la FUC, hein, réunie à Toronto pour le Congrès des sciences humaines.
Oui. Alors, justement, j'ai eu l'occasion, je suis peut-être un peu privilégié, d'avoir regardé, étudié, lu avec beaucoup d'intérêt ce document. Parlez-nous un petit peu de la table des articles qu'on peut retrouver dans ce document.
Bon, alors en fait, Pierre Laporte et des délégués du Québec participent en 1946 au congrès de la Chambre de commerce du Canada à Winnipeg et en profitent pour visiter Saint-Boniface où ils sont accueillis par la station de radio CKSB qui venait d'être inaugurée au cours de la même année et par le Collège de Saint-Boniface. Et Laporte en tire un reportage sous forme de 6 articles qui sont publiés dans le journal Le Devoir, auquel il avait commencé à collaborer dès l'âge de 23 ans. Donc en 1946, il a 25 ans. Il tire donc de son expérience manitobaine, qui ne sera pas la seule, une série d'articles sur des sujets qui préoccupent les élites canadiennes françaises de l'époque, en particulier la question de la survivance franco-catholique dans l'Ouest canadien. Il ne faut pas oublier qu'avant l'inauguration de la station de radio CKSB, il n'y avait pas de station de radio française dans l'Ouest canadien. Et grâce à Maurice Baudou et à d'autres membres de l'élite canadienne française de l'époque, une campagne de souscription à travers tout le pays permet de recueillir suffisamment de fonds pour créer Radio Ouest française, qui sera à l'origine de la création de quatre stations de radio, à commencer par CKSB, dans l'Ouest canadien.
Est-ce que les gens faisaient, comme on fait aujourd'hui, des levées de fonds? Oui,
oui, absolument. Et les journaux, évidemment, sont mis à contribution pour contribuer à une campagne de presse. Mmh. Et moi, au cours de mes recherches, ce que j'ai découvert, c'est que le journal Le Devoir, le journal Le Droit, Le Soleil de Québec, l'Action catholique de Québec et d'autres journaux, l'Évangeline de Moncton, avaient publié en 1945 une série d'articles sur le Manitoba français. Alors, c'est dire que les souscripteurs étaient tenus au courant de la situation des minorités françaises dans l'Ouest canadien. Et alors, ils étaient sensibilisés au fait que, bon, bien, la minorité française du Manitoba en particulier avait besoin d'une station de radio. En revanche, je pense qu'il y a lieu de préciser qu'il y avait malgré tout un contenu d'expression française sur les ondes de CBC, du CBC de l'époque et de stations de radio de Winnipeg, en particulier CKY. Mais en fait, c'était donc le contenu d'expression française était relativement limité. Donc, cette campagne de souscription permet aux franco-manitobains de l'époque d'avoir leur propre station, qui est au départ une station privée. Elle sera vendue à Radio-Canada en 73, mais au départ, c'est vraiment grâce à la générosité des souscripteurs du Manitoba et du reste du Canada que cette station-là est ouverte. Et Pierre Laporte, donc, en compagnie de délégués du Québec visitent la station, rencontrent le gérant, M. Lepron, et évidemment, à partir de ces observations, eh bien, tirent deux articles, en particulier de son passage à CKSB.
Alors, pour la communauté francophone manitobaine de Manitoba à l'époque, le fait d'agrandir son espace et d'augmenter sa population par l'accueil des personnes, pensez-vous que la radio a joué un rôle important, primordial, pour faire connaître la culture francophone et les identités francophones de l'époque?
Moi, je vous dirais que c'est plutôt le journal La Liberté qui a servi à ce qu'on appelait la propagande de colonisation. Dès les années 1910. Alors, avant même la création de CKSB, il y avait eu tentative de la part de l'élite canadienne française d'attirer des colons du Québec. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des tentatives de rapatriement de franco-américains, d'où la présence de franco-américains dans un village comme Saint-Joseph, qui est au sud de la province du Manitoba. Mais bon, les efforts des missionnaires colonisateurs n'ont pas vraiment beaucoup porté fruit. Il n'empêche qu'il y a eu malgré tout, jusque, je vous dirais jusque dans les années 30, une volonté d'attirer davantage de colons de langue française. Là. Mais je ne pense pas que CKSB avait comme but premier d'attirer des immigrants en 46. Oui. En revanche, et c'est ce qui fait, je pense, l'intérêt de la contribution de Pierre Laporte à la connaissance des médias francophones de l'Ouest, c'est qu'il y a une ouverture sur la communauté anglophone de l'époque. Parce que CKSB, comme toute autre station communautaire, a besoin de commanditaires. Et les principaux commanditaires de CKSB étaient des commerces anglophones de Winnipeg. Alors, ce qui est vraiment fascinant, c'est que dans les années 40 et 50 en particulier, la plupart des commanditaires sont de langue anglaise. Alors, de la publicité était achetée à la station CKSB, qui a pu, justement, grâce à ces commandites-là, eh bien, éviter les déficits, là, parce que c'est toujours le grand défi des radios communautaires et des médias en milieu minoritaire en général.
À qui le dites-vous? Écoutez, en vous entendant parler, je ne sais pas si Caroline est d'accord avec moi, on a beaucoup de difficultés à comprendre que les anglophones, les gens d'affaires anglophones, étaient favorables à la promotion du fait français à l'époque. Or, nous, comme francophones, vivant dans des situations minoritaires, même si j'aime pas cette expression, on pense toujours que les anglophones sont contre les francophones ou la présence des francophones. Or, là, vous nous apprenez quelque chose à travers cet ouvrage, qu'à oui. l'époque, les gens d'affaires anglophones contribuaient financièrement.
Oui, mais il faut dire que la situation de Winnipeg est particulière, parce qu'il y a toujours eu à Winnipeg oui. une élite francophile, grâce, entre autres, à la présence de l'Alliance française, qui est fondée par un anglophone, le professeur Osborne, mm-hmm. Fondateur de du département de français de l'Université du Manitoba, auquel je suis rattaché. Alors, dès 1915, l'Alliance française attire ils les appelaient pas les francophiles à l'époque, mais des anglophones bilingues, désireux d'assister à des conférences, à des cours qui étaient donnés en français. Et le Cercle Molière, donc la plus vieille institution, sauf erreur de ma part, théâtrale de langue française en Amérique du Nord, fondée en 1925, va donner des représentations dans les théâtres du centre-ville de Winnipeg. Alors, faut toujours garder à l'esprit que la proximité géographique et culturelle de Winnipeg fait en sorte qu'il y a eu toujours des échanges entre Saint-Boniface et Winnipeg. Donc, des institutions comme l'Alliance française, le Cercle Molière, avaient tracé la voie, donc, à la période des commandites de CKSB. S'il n'y avait pas eu l'Alliance française ni le Cercle Molière, probablement qu'il n'y aurait pas eu développement d'un intérêt pour le fait français à Winnipeg même.
Professeur Caroline Labrec a un commentaire.
Oui, Dominique, je vous écoute avec grand intérêt, tout comme j'ai lu avec beaucoup d'intérêt tout ce dossier que vous avez magnifiquement maîtrisé avec vos collaborateurs et collaboratrices. En vous entendant parler du lien entre les deux communautés francophones et anglophones du Manitoba, je me souviens d'un passage dans le texte, pas dans les articles consacrés à la radio, mais où sur le terrain, les liens entre les deux communautés étaient beaucoup moins fluides, notamment au niveau des relations mixtes entre des couples anglophones et francophones, si vous vous souvenez de ce passage-là. Et l'importance de la radio auquel vous avez consacré, enfin auquel Pierre Laporte a consacré deux articles, pour moi était très significatif parce que la radio a été d'emblée un trait d'union entre ces deux communautés jusqu'à diffuser un cours de français en ondes qui a eu beaucoup de succès.
Et à l'époque. C'était un peu une révolution à l'époque, n'est-ce pas?
Mm-hmm. Et c'est qu'en fait, je n'enlève pas le mérite d'autres universités, mais l'Université du Manitoba et l'Université de l'Alberta en particulier ont joué un rôle de pionnier dans la vulgarisation scientifique sur les ondes de stations de radio. Alors, à l'Université du Manitoba, dès 1922-1923, il y a des séries d'émissions radiophoniques grand public qui étaient auxquelles des professeurs participaient, dont des membres de mon département. Et ce qui peut expliquer le fait que le professeur Jones, deuxième directeur de mon département, a donné, donc de 1946 à 1951, un cours de français sur les ondes d'une station de radio. Mais auparavant, il y avait eu, de la part de ses prédécesseurs, en particulier le professeur, le fondateur de l'Alliance française, le professeur Osborne, il y avait eu participation annuelle à des émissions sur la culture canadienne française, sur la littérature canadienne française, littérature française, et qui était diffusée par la station CKY de Winnipeg. Donc, en 1946, le cours de français du professeur Jones, c'est vraiment l'aboutissement de plusieurs années de participation de professeurs d'université à des émissions radiophoniques.
Parce que nous avons un autre invité qui nous attend au Manitoba, mais pour terminer, quand je regarde un peu la vie de Pierre Laporte que j'ai lu depuis que je suis au Canada, c'est un personnage, hein, finalement. Il a, on le sait, été ministre et puis enlevé, assassiné, oui, on peut le dire. Alors, comment expliquer ce désir à l'époque de Pierre Laporte et de son intérêt d'étudier justement la présence des francophones hors Québec?
C'est que le journal Le Devoir était déjà favorable à la cause des minorités françaises. Il ne faut pas oublier que Henri Bourassa, le fondateur du Devoir, l'un des premiers rédacteurs, Omer Héroux, qui va être rédacteur en chef jusque dans la fin des années 40, écrivent des articles sur les minorités françaises. Donc le rôle historique et culturel du Devoir dans les relations entre le Québec et le reste du Canada français sont vraiment est vraiment primordial. Donc Laporte en fait hérite d'une tradition en matière de si vous voulez de liens médiatiques entre les minorités françaises et le journal Le Devoir.
Et je me demandais si à l'époque, ils ne voyaient pas que les médias pouvaient être contre ce système, c'est-à-dire les anglophones à l'époque, les gouvernements à l'époque, pour justement forcer la note du gouvernement fédéral sur les acquis et les gains.
Oui, vous avez tout à fait raison, parce qu'en fait, les souscripteurs, les organisateurs de la campagne de souscription pour Radio-Ouest française se heurtaient au manque de volonté de la part de la société d'État pour créer une station de radio. Il y a vraiment fallu la ténacité des Baudoux et autres pour qu'enfin il y ait des stations de radio françaises dans l'Ouest, là.
Très, 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 très intéressant. Ce livre sera disponible au public, oui?
Oui, tout à fait. Donc, il est disponible à partir du site de l'APFUC, l'Association des professeurs des universités et collèges canadiens. Et c'est une collection qui fonctionne aussi par souscription, puisqu'on parle de souscripteurs. Donc, on a chaque année de généreux souscripteurs qui nous aident à...
Oui. C'était une forme de révolution à l'époque, moi, je pense, quand je lis les passages de ce livre.
Oui,
écoutez, merci infiniment d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Cela a éclairé nos lanternes justement sur les communautés francophones du Manitoba. Et merci infiniment d'avoir été.
Je vous en prie. Oui. Passez une belle journée.
On se reparle très prochainement, j'espère.
Oui, au revoir.
Au revoir. Alors voilà, nous allons faire une pause et on revient tout de suite après avec notre invité. Cette fois-ci, je pense que nous allons accueillir Michèle Keller, doctorante et collaboratrice de ce projet. Elle est à l'Université de Manitoba. Et oui, Popori Show et CUTFM sont fiers de vous présenter le lancement du livre « Le Manitoba français 1946 ». Ouvrage qui met en lumière le combat de Pierre Laporte, journaliste au journal Le Devoir et ministre des Affaires culturelles pendant la Révolution tranquille au Québec. Il était réputé, je vous rappelle, pour appuyer les minorités françaises dispersées à travers le continent nord-américain. Le Manitoba français,
met aussi l'emphase sur le rôle important d'une radio CKSB auprès des communautés francophones et anglophones du Manitoba. Popourri Show, lancement du livre « Le Manitoba français » à l'antenne aujourd'hui. Alors, vous avez édité, vous avez lu ces passages avec beaucoup d'intérêt, j'imagine, comme je l'ai fait. Et je pense que c'est un ouvrage quand même qui mérite d'être lu par les auditeurs, je dirais même des gens qui sont à l'étranger, qui s'intéressent sur l'évolution de la communauté francophone. Parce que souvent, on parle seulement que du Québec ou un peu de l'Acadie de temps en temps. Et on connaît très mal les réalités et les luttes qu'ont menées les francophones dans les années 30, les années 40, n'est-ce pas?
Tout à fait. Montre aussi la diversité de la communauté francophone au Canada. Qui ne se limite pas au Québec ou à l'Acadie, même si la communauté québécoise et les communautés québécoises et acadiennes sont très importantes. Il y a eu beaucoup d'activités dans l'Ouest, en Ontario, toutes ces communautés-là.
Alors, nous allons accueillir Michèle Keller, qui est doctorante et collaboratrice à l'Université du Manitoba et associée à ce projet. Bonjour, Michèle.
Bonjour.
Alors, vous nous entendez bien? 10 sur 10, c'est ça?
Oui.
Très bien. Alors, merci beaucoup d'être là. Vous êtes en compagnie avec professeur Caroline Lebrecht, que peut-être vous connaissez. Vous vous êtes rencontrés, non?
Non, nous ne sommes pas encore rencontrés, mais oui. Je suis ravie que la radio nous en donne l'occasion.
Alors, vous avez participé à l'élaboration de ce projet. Et entre autres, je vois ici les notes qui parlent que vous avez étudié surtout la situation économique des Canadiens français de l'époque.
C'est ça, oui.
Alors, parlez-nous un petit peu du processus et vos recherches.
D'accord. Donc, puisque cet article vient du devoir qu'il fallait faire d'abord, c'est de retrouver ces articles et de les transcrire. Et puis, une fois que les articles étaient transcrits par un autre étudiant, c'était un étudiant que Dominique Laporte avait embauché pour le faire, ces articles, d'abord, on pouvait commencer à les annoter. En fait, Dominique nous avait demandé d'abord de faire des corrections à l'article, parce qu'il y avait quand même plusieurs coquilles qu'il fallait corriger pour normaliser tout ça. Donc, d'abord la correction et ensuite l'annotation. Et donc, ce que moi j'ai fait, c'est que Pierre Laporte, il parle de toutes sortes de choses dans cet article. Il mentionne des pays populaires, des personnes dont on ne sait pas forcément beaucoup de choses ou dont il ne parle pas forcément dans l'article. Donc, c'est ma tâche de définir, par exemple, des termes qu'il utilise, de donner des renseignements biographiques au sujet des personnes qu'il mentionne, et de donner parfois même des corrections, parce que Pierre Laporte parle de certains pourcentages, de nombres et tout ça, et donc je suis allée vérifier certaines des statistiques qu'il donne pour voir si c'est plus ou moins correct ou s'il fallait peut-être donner des précisions. À part de ça, donc c'est juste de donner du contexte et peut-être de nuancer parfois les propos de Pierre Laporte aussi pour mettre tout ça en contexte.
Ce qui a attiré mon attention, c'est de voir qu'à l'époque, il y avait cette influence de la communauté catholique, de l'Église catholique et des caisses populaires. Et il y en avait beaucoup à l'époque au Manitoba.
Oui, donc en 46, j'ai énuméré plus de 30 caisses populaires, non seulement à Saint-Boniface, mais dans les milieux ruraux. En fait, il y avait plein dans les milieux ruraux, à Saint-Malo, à La Broquerie, à Saint-Joseph, Saint-Pierre, etc., etc. Et oui, absolument, il y avait, l'Église catholique était très... très impliqué. Donc, par exemple, il y avait l'abbé Adélard Couture qui était en fait surnommé, comme je le dis dans mon annotation, l'Alphonse Desjardins du Manitoba. Donc, il était vraiment pionnier dans le domaine économique. C'est lui qui a commencé par la broquerie.
Oui, et on voit que c'était important pour la communauté francophone de l'époque de s'associer à ces caisses populaires pour le développement économique de l'époque. Hein?
Absolument, oui, absolument. Absolument, parce qu'en fait, c'était la porte qui parle au début de son article que, c'est le plus épineux des problèmes, comme il le dit. Les Canadiens français n'ont pas assez d'influence dans le domaine économique. Donc oui, absolument, c'est très important pour les Canadiens français de s'associer aux caisses populaires pour augmenter leur présence économique dans la province.
Alors, quand vous regardez, peut-être Caroline aura une question pour vous, mais quand vous regardez justement à l'époque le développement économique qui se faisait à travers les caisses populaires où la religion catholique jouait un rôle très important, il faut dire qu'aujourd'hui ça a changé, parce qu'aujourd'hui vous avez beaucoup d'immigrants venant de différents coins de la planète qui s'installent au Manitoba et qui apportent une certaine vitalité. On n'a qu'à voir les sites web qui existent, les plans stratégiques des organismes francophones. On n'a que voir les statistiques d'aujourd'hui. Ces gens ne sont pas nécessairement catholiques, n'ont pas de lien avec les caisses populaires. D'ailleurs, je ne sais pas si en 2017, les caisses populaires existent toujours, bel et bien toujours en Manitoba. Mais comment faire le parallèle avec le développement économique d'aujourd'hui et de l'époque?
C'est vrai que ça a évolué au cours des... et qu'il y a beaucoup moins de caisses populaires aujourd'hui qu'il y en avait. En fait, je ne sais pas si...
Et les églises aussi, sans doute, ont moins de fidèles.
Oui, absolument. Mais aujourd'hui, on a le Conseil du développement économique au Manitoba qui est en train d'attirer des gens de partout du monde francophone pour s'installer ici au Manitoba et augmenter la présence économique. Donc, par exemple... On a un nouveau magasin, l'Amada Boutique, qui est un magasin de vêtements africains qui est nouvellement ouvert à Saint-Boniface. Donc oui, absolument, ça a beaucoup évolué au cours des années.
Oui. Alors, cela vous avez appris quelque chose en travaillant dans ce projet?
Oh, absolument, parce que moi, je ne suis pas experte en économie, je l'avoue. Moi, je travaille sur la refrancisation, mais ce projet m'a quand même donné l'occasion d'alimenter mes recherches doctorales, de trouver qu'il y avait des coopératives du livre que les étudiants, que les jeunes s'intéressaient à cet enjeu de l'économie. Il y avait des caisses scolaires aussi à l'époque. Oui, beaucoup de découvertes intéressantes.
Sans vous poser une question indiscrète peut-être, est-ce que vous êtes francophone ou francophile? Quel est votre attachement à la communauté francophone?
Oui, c'est une bonne question. En fait, puisque le Manitoba, le gouvernement du Manitoba a mis en vigueur une loi l'année passée, c'est la loi sur l'épanouissement de la francophonie au Manitoba, cette loi redéfinit ce qu'est un francophone au Manitoba. Donc, un francophone, c'est non seulement quelqu'un qui a la langue française comme langue maternelle, mais aussi quelqu'un qui a une affinité spéciale à la langue française et qui le parle couramment.
Oui.
Donc, dans la loi, je me définis comme francophone, mais on peut me définir aussi comme francophile. Oui. Moi, en fait, j'ai l'héritage polonais, j'ai des racines polonaises par mes parents. Et puis, c'est vrai que la langue anglaise, c'est toujours ma langue dominante. J'ai des racines polonaises, mais j'ai aussi cette affinité spéciale à la langue française.
Je vois que le gouvernement du Manitoba en fait beaucoup pour l'aménagement linguistique ces jours-ci chez vous. Est-ce que les jeunes, en général, s'intéressent à la culture francophone et à la langue française au Manitoba?
Les jeunes francophones ou francophiles ou...
Oui, ou les jeunes en général, parce que, vous savez, les jeunes francophones, de parents francophones, de plus en plus, c'est les statistiques, les études qui démontrent, délaissent un peu la langue française, la culture francophone, parce qu'ils trouvent que c'est compliqué, c'est difficile, des fois, à participer à des activités ou à parler, pratiquer cette langue. Est-ce qu'au Manitoba,
les jeunes en général, anglophones ou francophones, s'intéressent à la culture française, à la culture francophone?
Moi, je pense que oui. Moi, je pense de plus en plus. Quand je parlais avec une enseignante que j'avais en école secondaire, elle me dit ça aussi, que de plus en plus, les étudiants s'intéressent de plus en plus à la langue française, à la culture francophone. Ah, moi aussi, je suis partie d'un groupe de conversation française. Il y a plusieurs personnes qui veulent participer à nos activités. Donc, oui, je pense de plus en plus.
Écoutez, c'est tout le temps qu'on a. Vous avez une question pour...
Oui, je me demandais en fait depuis combien de temps ce projet avait germé dans l'esprit de Dominique et de tous ses collaborateurs, parce qu'il faut le dire, c'est notre premier numéro qui a été fait avec des collaborateurs. Donc il y a Dominique Laporte comme directeur scientifique et en collaboration avec Jacqueline Blais, Yves Renette, Michel Keller, Kim Viengo, Denise Robillard et Anthony Spitaels, et surtout une postface aussi du biographe officiel de Pierre Laporte, Jean-Charles Panneton.
Très bien
Alors
écrit,
depuis,
d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Donc depuis combien de temps, en fait, ce projet a germé au niveau de la production? Je sais que ça s'est fait pendant cette année, mais de votre côté, en fait.
Il ne trouve pas. Donc Dominique m'avait proposé cette idée, je crois, c'est à peu près en avril 2015. Et puis, il voulait organiser un colloque en 2016, donc pour le 70e anniversaire de CKSP. Et puis, depuis ce temps-là, on avait l'occasion de travailler, d'annoter les articles. Donc, pour à peu près 2 ans.
Ah, très bien. Ben, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce projet.
Mot de la fin. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. J'espère vous recevoir très prochainement pour une autre intervention. Hein?
De rien.
Au revoir, Michel. Quelle est Michel Keller, doctorante et collaboratrice à l'Université du Manitoba. Ils ont un grand département de français à Saint-Boniface?
Oui, assez grand. Mm-hmm. Oui.
Alors, vous échangez avec les universités d'autres?
Oui, bien sûr, notamment grâce à la FUC, où chaque année, le colloque, notre colloque permet de se retrouver de toutes les provinces canadiennes. Et donc, c'était très intéressant d'entendre Dominique Laporte parler des liens très forts entre son département ou les départements locaux.
Et la place de l'Alliance française.
La place de l'Alliance française, ouais. Oui, c'est assez rare, je pense, de voir une telle implication de l'Alliance française. Et donc, tous ces liens qui sont faits entre les communautés, on a l'impression qu'il y a eu quelque chose de très vivace là au Manitoba.
Et cela réaffirme notre intérêt à la radio, aux médias francophones, dans les milieux minoritaires. C'est un outil extrêmement important pour le développement de la langue française, pour le développement de la communauté francophone.
Tout à fait. Le média comme porteur, oui. L'élément porteur. Et au Manitoba, avec ses KSB, rassembleur. Mais votre émission aussi, Eric,
oui.
Bien sûr.
Alors, merci beaucoup, Caroline, d'avoir été là. Et c'est vous, d'ailleurs, qui avez initié ce projet aujourd'hui à la radio. Alors, c'est un ouvrage qui sera disponible très prochainement. Vous avez une date?
Oui, qui est disponible. Ça sort sous presse. Et donc, on peut le commander à partir du site de la PFUC.
Oui. Alors, merci beaucoup d'avoir dit. Vous partez pas, vous restez des nôtres, parce que nous allons sur la croisette dans quelques minutes. Merci encore une fois d'avoir été là. Voilà, c'était une émission un peu spéciale aujourd'hui. Lancement du livre Le Manitoba français. Nous remercions Dominique Laporte, éditeur scientifique, professeur au département de français de l'Université de Manitoba et vice-président de l'Alliance française du Manitoba. Michel Keller, doctorante et collaboratrice à l'Université du Manitoba, et bien sûr Caroline Lebrec, éditrice responsable du projet. Elle est aussi responsable de liaison au département d'études langagières au campus de Mississauga, Université de Toronto.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you early North American country music and bluegrass on Radio Boogie with Steve Pritchard, Wednesday afternoons at 3.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The CIUT Spring Membership Drive, The Sound of Your City, may be over on air, but the campaign continues off air, and your support goes towards keeping the radio station operational, upgrading facilities, developing programs, and ensuring the sound of your city stays on the air. Go to www.ciut.fm to donate today.
L'essentiel de l'actualité en 3 minutes. Le sommet du G7 en Sicile s'est achevé ce samedi sur fond de désaccords. Ensemble, les dirigeants se sont engagés à lutter contre le protectionnisme, surmontant les résistances de Donald Trump. Mais les dirigeants ne sont pas parvenus à s'accorder sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Le communiqué final mentionne clairement cette divergence de vue entre Washington et ses partenaires du G7. Le président américain Donald Trump, isolé au sein du sommet sur le changement climatique, a déclaré sur Twitter qu'il se prononcerait sur l'accord de Paris la semaine prochaine. C'est un pragmatique qui a pris conscience des enjeux du phénomène et que l'on peut espérer qu'il change de position, a déclaré le président français Emmanuel Macron, qui abordera les sujets syriens et ukrainiens avec Vladimir Poutine ce lundi dans le cadre de leur réunion prévue à Paris, à Versailles, un dialogue qu'Emmanuel Macron promet exigeant et sans concession. Mais avant cela, des manifestations hostiles à Vladimir Poutine sont attendues à Paris aujourd'hui dimanche, à la veille donc de la rencontre entre les deux homologues. Au Royaume-Uni, la police diffuse depuis hier soir deux photos du kamikaze prises le soir de l'attentat. Un appel à témoins est lancé pour reconstruire son parcours les jours précédant l'attaque. Et 5 jours après l'attentat de Manchester, 2 nouvelles personnes ont été arrêtées. Le niveau d'alerte terroriste a été abaissé d'un cran. Il était à son maximum. Les militaires armés qui patrouillaient dans les rues vont pouvoir retourner dans leurs casernes à l'issue du week-end. L'aviation égyptienne a une nouvelle fois bombardé des camps libyens abritant des islamistes radicaux soupçonnés d'être liés à l'attaque meurtrière survenue vendredi contre des pèlerins coptes. D'ailleurs, on en sait un peu plus sur le déroulé des événements. D'après des rescapés, des hommes masqués ont ordonné aux chrétiens qui étaient sur le chemin du monastère de descendre de l'autocar et d'abjurer leur foi. Tous ont refusé, les hommes armés les ont froidement abattus en leur tirant une balle dans la tête. Au moins 18 personnes, dont des militaires et des civils, ont été tuées ce samedi à la gare routière de Khost à l'est de l'Afghanistan dans une explosion revendiquée par les talibans, et ce au premier jour du Ramadan. D'après les autorités locales, cette attaque a principalement visé les KPF, les forces de protection de Khost, une milice réputée pour ses abus contre la population, notamment pour des actes de torture, de séquestration ou encore de détentions arbitraires. Une milice qui travaille avec les troupes américaines et qui est financée par la CIA. En France, à Colombey-les-Deux-Églises dans la Haute-Marne, la tombe du général de Gaulle vandalisée ce samedi 27 mai, journée nationale de la résistance. Dans la foulée, l'Élysée a assuré hier soir, je cite, que toutes les actions requises seront conduites dans les meilleurs délais. Et puis en mot de sport, le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France pour la 11e fois de son histoire grâce à sa victoire hier soir au Stade de France. 1-0, c'était face au SCO d'Angers.
RFI, la radio mondiale.
Il y a ce que vous écoutez sur la radio mondiale et il y a ce que vous écoutez ailleurs mais qui passe aussi par RFI. Car sur les 5 continents, plus de 600 radios programment des émissions ou des musiques réalisées, concoctées, sélectionnées par l'équipe de la production musicale. Il s'agit en fait d'un formidable courant d'échange entre RFI et ses radios partenaires. C'est tel groupe angolais dont la cassette nous est envoyée par Radio Luanda et dont les meilleurs extraits vont repartir via RFI vers le Chili, le Vietnam, les États-Unis. C'est aussi cet invraisemblable joueur de vielle que nous envoie Radio France Puy-de-Dôme et que l'on va écouter à Lima, Jakarta ou Kampala. Chaque mois, 8 programmes musicaux sont proposés aux radios du monde entier. Beaucoup de chansons françaises, bien sûr, mais aussi un hit parade européen, une sélection de musique tropicale, du jazz, du classique, de la musique traditionnelle et parfois de la salsa.
Les nouveautés de la francophonie avec DJ Amida mettant en vedette K-Black et Nessa en offre.
Je suis posé pépé les pénales, même s'approche de moi, gros boule de la pénombre. Elle me dit d'envoyer sinon patiner comme je la repousse et tout ça de l'eau. Nous le cachons le quartier, nous on charbonne et l'argent n'ira pas du loup. Pas besoin de dégainer, nous on est connus comme je bégaine.
Nous on n'en voit pas encore, nous on n'en voit pas encore. Nous on n'en voit pas encore.
C'est pas une faute à l'heure. Toi t'as sucré ton salaire. On prend le monopole. Ça fait la malin, on va faire du salaire. Nous on n'en voit pas encore. Plus d'ignace dans la chepeau. L'attitude des ghettos. La débauche a raison, j'fais mon flash à la maison. Nous on est des terres, tu fais le mannequin. Et sous le manteau, y'a toujours les métaux. Et pour la détente, je préfère s'endetter. Mmh, c'est inquiétant. J'suis un vaillant, c'est des novices. J'pose pas quel que soit le motif.
Nous on n'en voit pas encore.
C'est pas une faute à l'air. Toi t'as sucré ton salaire. On prend le monopole. Sans faire la malin, on va faire du salaire.
Nous on n'en voit pas encore. Plus rien dans les chapeaux. Pour nous un zéro. Plus rien dans les chapeaux. Un zéro.
T'as misé tes zéros, t'as fait la malle à tes zéros. T'as misé tes zéros, t'as fait la malle à maintenant t'es qu'un zéro.
Nous on n'en voit pas encore.
C'est pas une faute à l'heure. Toi t'as sucré ton salaire. On prend le monopole, sans faire la malle, on va faire du salaire.
Bientôt à l'émission.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
Con Alexandre Héron.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Eh ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Il paraît que si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre parler plus de 120 langues à la fois sur le macadam de Toronto. Pas étonnant, si l'on considère ce que nous allons pas manquer de faire pour cette dernière étape de notre tour du monde estival au sein des alliances françaises, si l'on considère que le monde s'est donné rendez-vous à Toronto. Toronto, cette mégapole de...
Et oui, madame, monsieur, re-bienvenue dans cette deuxième heure de l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde depuis 30 ans. Je ne sais plus où je suis là, mais je vais prendre une chance. Alors, dimanche prochain, je vous rappelle, nous lancerons le mois spécial LGBT ainsi que des célébrations et des marches des fiertés au Canada et dans le monde. Plusieurs invités et membres engagés de la communauté LGBT seront à nos micros tout au long du mois de juin. Soyez-y. Et dimanche prochain, le 4 juin, nous recevrons le collectif Arc-en-Ciel, basé à l'île Maurice, une organisation non gouvernementale de l'île Maurice, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, qui milite contre l'homophobie et les différentes formes de discrimination liées à l'orientation sexuelle. Pour célébrer ces 12 ans d'existence, plusieurs événements exceptionnels sont au programme dès le 1er juin à Port-Louis, la capitale de l'île Maurice. Et la porte-parole Pauline Werner sera à nos micros dimanche prochain. Ne ratez pas cette occasion spéciale. Cannes 2017, c'est ça, on va à Cannes en ce moment, oui? Alors, à quelques heures de la clôture du 70e Festival de Cannes, certains longs métrages sortent du lot et ont attiré l'œil des critiques. Quels sont les films favoris pour la Palme d'Or? Reportage en direct sur la Croisette avec Catherine Fruchon-Toussaint, Elisabeth Lecré, Sébastien Gédor, Muriel Malouf, Isabelle Chenu, José Morino, Sophie Torlotin et Silfred Foster. En direct, Cannes, RFI.
24 heures de la remise de la Palme d'Or d'une édition qui a beaucoup frustré et déçu les festivaliers, beaucoup de films qui ont été très en deçà des attentes. Néanmoins, trois films sont pour nous largement au-dessus de la mêlée. Le préféré des Français, c'est 120 battements par minute. C'est un film de Robin Campillo qui arrive pour la première fois en compétition. C'est une révélation. C'est le film qui a fait, qui a répandu des rivières de larmes hein, pendant sa projection et à juste titre parce que c'est une fresque magnifique, à la fois extrêmement réaliste, très documentaire et totalement lyrique sur les années ACT UP au début des années 80 en France. Voilà, c'est une grande fresque lyrique, intime. Et c'est l'un des rares films qui a vraiment fait battre, pour le coup, on peut le dire, le cœur des festivaliers.
L'un des préférés des festivaliers étrangers, c'est le film suédois The Square de Ruben Östlund. Un film totalement corrosif, très drôle aussi, sur le milieu de l'art contemporain et en même temps qui embrasse une vision sociale d'un pays, la Suède, régi par le politiquement correct. On y suit les tribulations d'un directeur d'un musée d'art contemporain qui est pris au piège de ses propres contradictions et dont le vernis va se fendiller sous nos yeux alors qu'il essaye de promouvoir sa nouvelle exposition. Il se fait voler son portefeuille, il essaye de le récupérer et tout va aller de mal en pis. Donc pour révéler toutes ces contradictions, c'est très drôle. Peut-être un poil long quand même, 2h20. Et en même temps, c'est quand même un candidat sérieux au palmarès.
S'il y a bien un film qui a marqué la compétition et qui mériterait de figurer au palmarès, c'est le film du russe Andrei Zyagintsev, qu'on a traduit en français par « Faute d'amour ». C'est un film avec une mise en scène splendide qui nous a été présenté au tout début du festival et qui n'est pas sorti des esprits. Il raconte avec beaucoup de subtilité, beaucoup de choses sur la société russe contemporaine. C'est l'histoire d'un couple, un jeune couple en plein divorce qui se déchire. Aucun des deux ne veut la garde de l'enfant et cet enfant va disparaître.
Ton espoir de cire, tu es fragile. Je te devine, devine et dire. L'amour qui se met. Mon envie, ma lubie, mon idylle. Divinité, mon aminité, mon idylle. Chocolat, croque-moi la peau. S'il te plaît, croque-moi les os. S'il le faut, c'est le temps des grandes métamorphoses. Et je baillerai des éclairs, une comète plantée entre les dents. Mais sur terre, en attendant, je me transformerai en la femme chocolat.
Et Et oui, madame, monsieur, la belle voix de Véronique Dicker, la franco-ontarienne, qui est très connue d'ailleurs en France. J'étais là pas tellement longtemps et à ma grande surprise, parce qu'elle imite très bien les chanteurs français, les chanteuses françaises. Et oui, la semaine dernière, je vous avais lancé un petit concours justement pour jouer un petit peu avec le mot de l'année 2017. Je ne sais pas, Caroline, si vous avez joué avec vos élèves. Je sais que de temps en temps, vous lancez des concours, vous lancez des lectures ou encore d'autres activités culturelles, linguistiques ou éducatives à les élèves, ça va?
Oui, oui, oui.
Les élèves, ils sont très engagés d'ailleurs.
Oui, ils sont très engagés.
Depuis la soirée des talents, il y a quelques mois de cela, ça continue?
Ça continue, oui, oui. Oui. Les nouvelles exécutifs m'ont contacté il n'y a pas très longtemps, ouais. Qui sont tous des anciens de mes étudiants et qui sont déjà très motivés pour ce qu'ils vont faire l'année prochaine comme programme.
Alors, parmi les mots proposés par le président du jury, Roland Kayrol, en France, il y avait plusieurs mots, 10 mots environ, Brexit, hésitation, clivant, promesse, post-vérité, posture, fictif, colère, renouveau, populisme, matraque, et il y a eu un tirage. Dès le départ, d'ailleurs, Brexit et populisme se sont détachés des autres mots. Et pour les fidèles de TV5 Monde et d'autres médias francophones, c'est Brexit qui arrive en tête avant colère et renouveau. Populisme arrive en quatrième position. Donc, le jury a hésité entre Brexit, populisme et renouveau avant d'opter pour renouvellement suggéré par Roland Kayrol, le président du jury. Au terme d'une période de quelques mois très politique, les internautes ont mis 3 mots en tête de leur classement du mot de l'année. Populisme, qu'on pourrait aussi adapter chez nous en Amérique du Nord, n'est-ce pas? En France, avec les élections présidentielles, ce mot est revenu plusieurs fois. Brexit et renouveau, c'est renouveau qu'il a finalement emporté dans la dernière ligne droite. Et je pense que nous avons Mario qui nous a envoyé un message la semaine dernière, qui est le gagnant de notre concours. Et nous remercions aussi tous ceux et celles qui ont participé à notre jeu concours. Et justement, pendant tout le mois de juin, nous allons vous lancer un concours, cette fois-ci aux couleurs des fiertés, aux couleurs LGBT. Alors, soyez des nôtres dès la semaine prochaine.
Oui, juste pour rebondir, je suis très contente que ce soit le mot renouveau qui est très positif, bien plus que le Brexit.
Oui. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on célèbre aussi, pas seulement le 150e anniversaire du Canada, mais 375e anniversaire de la ville de Montréal. Et plusieurs grandes voix de la chanson à Montréal se sont prêtées au jeu. Nous écoutons.
Je reviendrai voilà. À Montréal.
Bonne fête, Montréal.
Dans un grand poème bleu de mer.
J'ai besoin de revoir l'hiver.
Je reviendrai à Montréal. Ces aurores boréales.
J'ai besoin de cette lumière.
Descends du droit du Labrador.
Es-tu?
Puis qui fait neiger sur l'hiver.
Yo, Montréal, les dead obese sont dans la place. Ils sont partis.
Je reviendrai à Montréal.
Je reviendrai à Montréal.
Dans un grand Boeing bleu de mer.
Je reviendrai à Montréal.
Bonne fête, Montréal.
Me marier avec l'hiver.
Allez à la maison, là, chantez, là. C'est une très belle chanson. Je reviendrai à Montréal. Vous écoutez Potpourri Chaussée UT 89,5 FM. Je pense que nous avons des difficultés à aller en Haïti, que j'aimerais bien ça vous transporter sur les vols de CUT FM, mais nous essaierons quand même de vous faire rêver à travers de ce projet, ce sommet extraordinaire en technologie avec plusieurs fournisseurs de services, mais aussi des experts en la matière, entre autres de Silicon Valley, s'il vous plaît, pour redonner goût aux jeunes entrepreneurs haïtiens à décoller au niveau, au plan économique.
Lequel de ces trois chants est l'hymne national du Canada? The Maple Leaf Forever? Au Canada? Dieu protège la reine? Si tu as répondu au Canada, c'est la bonne réponse.
150 ans au Canada, CUT 89,5 FM vous donne rendez-vous tout au long de l'année. Oui, là nous sommes aux Victoires de la musique, les Victoires de la musique avec MHD. Écoutez bien ce groupe rap français.
C'est plus qu'un pote, c'est devenu un frère. Quand je marche avec lui, pour rien de mes frères. On a vécu des choses qu'on peut pas citer. Entre nous, par langue de bois, pas de secret. On n'a pas changé, les années sont passées. Certains nous ont lâchés. On se promet d'être soudés jusqu'au bout. Tu l'as choisi, vous deux, c'est l'amour fou. Tu connais sa famille, elle connaît la tienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. N'aie pas d'inquiétude, t'es sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'a peine. Ce soir, c'est ton jour. La danse va démarrer. On est tous dans la foule. Tout le monde est présent. Sa vie de famille se construit, elle t'a donné sa confiance. Forcément, il y a des hauts et des bas. C'est qu'une étape à franchir, cousine, tu sais. N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils, c'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je le connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça me fait plaisir, ça me fait rêver. Tout le quartier s'est déplacé, pourquoi? Ton histoire ne fait que commencer. Ce soir, c'est ton jour. Un peu se fait démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent.
Celebrating 30 years on the FM dial.
Stream CIUT or listen to recent shows at www.ciut.fm.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Teleimage. Good evening to you, Valerio.
Good evening, Barbara. Good evening to all the viewers. And let me tell you one more time, it is a pleasure to have Barbara next to me. And each time that I am with you, Barbara, you know how I feel.
Definitely. I feel wonderful, great. Wonderful. And woman like me, you have to feel wonderful.
Voilà. Tellement bien dit. Alors, à tous les amis téléspectateurs qui sont à travers le monde, un gros bonsoir. Et ceux-là qui sont peut-être branchés Internet, on veut les saluer. Nous avons pile téléspectateurs Barbara,
oh, yes.
Sur Facebook,
that's
qui branché,
sure.
Qui a réagi.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.potpourrishow.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Et oui, une première en Haïti du 6 au 7 juin prochain. La première République noire indépendante du monde accueille des centaines de leaders mondiaux, des entrepreneurs, des spécialistes en marketing numérique au sommet numérique Haïti 2017 à l'hôtel Royal Decameron Indigo, le joyau de l'île d'Hispaniola situé sur la côte des Arcadins, un des secrets des mieux gardés des Caraïbes. Et malheureusement, notre invité qui devait être des nôtres a eu un empêchement, Marc-Alain Boussico, qui est fondateur et directeur du support aux initiatives jeunesse au groupe Eco Haïti et élu jeune de l'année 2016 par Haïti Tech News. J'aimerais d'ailleurs qu'on lise un peu plus sa biographie. Il est né à Port-au-Prince en 1987, très jeune encore, issu d'une famille peu nombreuse composée d'une sœur et d'un frère. Livallois représente le chancelier qui conserve les pas de son adolescence. Marc-Alain Boussico a fait ses études primaires à Kayanou, une école qui l'aide à savourer les principes de liberté d'expression tout en le jetant loin du système archaïque où le parkour et le bâton étaient toujours à la mode. Et le centre d'études secondaires lui a accueilli avec ses études secondaires en philo, président de sa promotion, un moment qui lui sert de prérequis pour lui aider à vivre au cœur d'une foule de jeunes avec son leadership contagieux. Il est en poste de directeur des relations extérieures à la H-Fun, ambassadeur coordonnateur de One Young World pour la région Caraïbes et Amérique centrale depuis 2015. Il veut porter les jeunes Haïtiens à s'impliquer autrement dans leur communauté. Il est le cofondateur du groupe Eco Haïti, qui est une association de jeunes créée en 2010. Est reconnu par le ministère des Affaires sociales et l'une des figures de proue d'Élan Haïti, une structure qui accueille des jeunes Haïtiens étrangers pour discuter autour du développement d'Haïti. Sage, honnête, respectueux, liste parmi ses qualités personnelles. Haïti Numérique 2030 Tech Awards l'a honoré en juillet dernier dans la catégorie jeune pour son engagement dans le développement d'Haïti et le numérique. Alors, c'est une première pour cette République noire indépendante du monde qui accueille des centaines de leaders mondiaux, des entrepreneurs, des spécialistes en marketing numérique et des créateurs sous un même toit pour créer des partenaires, des partenariats et fortifier l'écosystème technologique haïtien. On vous invite à rejoindre à ce grand rassemblement annuel d'innovateurs transformant Haïti par la technologie et l'esprit d'entreprise lors du premier sommet annuel technologique haïtien qui se tiendra au Royal Decameron Beach Resort le 6 et 7 juin prochain. Et plan assez ambitieux, je dois admettre. Par contre, ils ont des objectifs assez sûrs. Par exemple, la mission de Haïti Tech Summit est de renforcer les partenariats au sein de l'écosystème technologique haïtien, d'aider à construire un pont entre Haïti et Silicon Valley, fournir un point de rassemblement central pour les innovateurs technologiques, les influenceurs et les entrepreneurs qui adressent les opportunités et les défis de développement en Haïti, fournir une plateforme centrale pour présenter les progrès de l'Internet des technologies exponentielle, par exemple la robotique, les drones et de l'espace. Enfin, on espère que tout ça va avoir un impact afin de fournir un échange de partenariat annuel en Haïti avec les leaders de la technologie du pays et entre Haïti et d'autres écosystèmes technologiques internationaux. C'est un engagement sur 13 ans. Pourquoi c'est important? C'est pour changer le discours en Haïti. Avec 10 millions de personnes, Haïti est le deuxième pays le plus peuplé de la Caraïbe, dont elle possède l'un des taux d'entrepreneurs les plus élevés dans l'hémisphère occidental. Et le pays est un cas d'étude exceptionnel pour l'entrepreneuriat, l'innovation et l'impact. C'est une façon aussi de repositionner les marchés de frontières. Les pays en développement et émergents ont des systèmes limités, comme vous le savez, en place. Et conséquemment, ont un énorme potentiel pour accélérer la croissance grâce à la mise en œuvre des technologies avancées d'aujourd'hui. Enfin, ils espèrent intéresser les marchés frontaliers comme un nouveau phare de l'innovation et d'échange culturel. Et aussi, ils espèrent redéfinir le visage de l'innovation en Haïti et dans les Caraïbes, des conversations qui favorisent la vie des citoyens dans les marchés frontaliers devraient avoir lieu entre ces pays-là. Et ils espèrent diversifier la répartition géographique des rassemblements des entrepreneurs les plus convoités de la société haïtienne et dans les Caraïbes. Enfin, il y aura plusieurs conférenciers. D'ailleurs, plusieurs ont déjà donné leur avis sur ce thème, mais aussi vont y participer. Plusieurs personnalités des États-Unis, du Canada et dans d'autres pays des Caraïbes seront sur place. Des PDG, le ministère du tourisme d'Haïti appuie financièrement, parraine cette initiative et aussi plusieurs partenaires médiatiques sont de la partie et nous sommes très fiers de pouvoir nous associer à ce premier sommet numérique en Haïti. Je vous rappelle qu'il se déroule le 6 et le 7 juin prochain au Decameron Beach Resort, bien sûr, en Haïti. Et nous espérons avoir peut-être bientôt notre invité qui devait être des nôtres, malheureusement, qui a eu un empêchement. Et qui sait, il sera peut-être des nôtres la semaine prochaine. Il y a encore du temps, hein, Marc-Alain Boussicot, qui est cofondateur de ce projet. Ici Eric Adair, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à ne pas rater une émission spéciale dans le cadre du Mois des Fiertés.
A tu manera, es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado,
una cartica que yo guardo donde te escribí. Te sueño que te quiero tanto.
Yeah.
Et oui, madame, monsieur, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission Tour du monde francophone et des Caraïbes. Et nos coups de cœur du mois de juin, soyez parmi nos invités ou partenaires. Moi de la fierté gay, moi des fiertés, réalité, LGBT, QIA, les luttes, les victoires, les défis, tout au long du mois de juin. Popourri Show ouvre ses micros aux membres engagés de la communauté LGBTQIA et les correspondants, nos radiopartenaires. Découvrez les activités des associations de la région dans le monde. La littérature, y a-t-il d'ailleurs une littérature LGBT? Les meilleurs bars, clubs, les cabarets alternatifs de Toronto, des animations à gogo et un verre de l'amitié dans le village gay de Toronto. Soyez parmi nos invités. Francofest Hamilton, un bonjour spécial à tous nos amis, auditeurs qui nous écoutent, qui nous envoient des courriels, des messages chaleureux chaque dimanche. Le lancement de la Francofest de Hamilton aura lieu le vendredi 23 juin avec un concert de la chanteuse de Hamilton, Diana Penton. Elle a remporté Juno, le prix Juno 2015 pour son album de jazz vocal de l'année. L'une des lumières les plus brillantes, nous dit-on, de la scène du jazz d'aujourd'hui, et une performance de vague, de cirque, une troupe acrobate ambulant des îles de la Madeleine. Tenez-vous bien, le 23 et 24 juin 2017 au parc Gage, Avenue Gage Sud, rue Main Est à Hamilton. Et c'est gratuit, hein, tout ça. Allez sur le site www.francofesthamilton.ca. La Semaine nationale de l'accessibilité, c'est du 28 mai au 3 juin prochain. Nous célébrons ces gens qui se dépassent quotidiennement en soulignant la Semaine nationale d'accessibilité. Profitez de cette Semaine nationale pour offrir une formation à vos employés. Pourquoi pas célébrer avec nous en découvrant le bon mot, le bon geste. Et à chaque jour de la semaine, il y a un organisme, le Phoenix, dans l'est de l'Ontario, qui publie des capsules. Vous pouvez les suivre sur Twitter, hashtag le Phoenix Ontario, ou participer aux astuces en utilisant le hashtag au-delà du handicap ou sur leur site www.lephoenix.ca. Fierté, santé, bien-être, le 10 juin prochain à 12h30 jusqu'à 15h au Collège Boréal, rue Young, 3e étage. Il y aura un repas échangé, improvisation théâtrale sur l'expérience des patients LGBTQIA. Et c'est notre partenaire, Reflet Salvéo, qui nous envoie l'invitation. Le Sophie Franc, le conseil d'administration de cet organisme Solidarité des femmes et familles immigrantes francophones du Niagara, vous donne rendez-vous pour la rassemblée générale annuelle qui aura lieu le 25 juin prochain à 16h. C'est au City Hall, l'hôtel de ville, salle communautaire, et c'est au 60 rue Est Main, la rue Main Est. Et un léger goûter sera servi à la fin de l'assemblée. Vous pouvez contacter un responsable au 905 714 7333 pour avoir des renseignements. Encore une fois, conseil d'administration, grande réunion de Sophie Franc, Solidarité des femmes et familles immigrantes francophones du Niagara à Hamilton. Et je remercie professeur Dominique Laporte de Hamilton pour avoir participé à l'émission aujourd'hui dans le cadre du lancement du livre sur le Manitoba, et Madame Michelle Keller, et ainsi que notre amie Caroline Lebrec, professeure à l'Université de Toronto. Malheureusement, Marc-Alain Boussicot n'a pu être des nôtres aujourd'hui. Merci DJ Devera, RFI Musique et le magazine Cinéma Sans Frontières qui était sur la croisette. Ici Eric Adair, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une émission spéciale dans le cadre du Mois des Fiertés 2017. Salut! We'll be right back.
CIUT 89.5 FM, the station that takes you around the world on our travel show, Fly, with Melissa Rodway. Saturday mornings at 7.
From backpacking to luxury, from the beach to the mountains, from gadgets to books, it encourages you to get off the couch and into the world.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Fly.
CIUT Spring Membership Drive, The Sound of Your City, may be over on air, but the campaign continues off air, and your support goes towards keeping the radio station operational, upgrading facilities, developing programs, and ensuring the sound of your city stays on the air. Go to www.ciut.fm to donate today.
The 2017 LulaWorld Festival features new projects and international collaborations led by local, jazz, funk, urban, and global musicians, running from June 1st until the 11th. This year, LulaWorld includes three generations of Cuban Congo, featuring the legendary Candido with Jane Bennett, Toronto's own Kike Escamilla, and longtime Dizzy Gillespie band member, jazz guitarist Ed Cherry. Visit lulaworld.ca for additional details.
Celebrating 15 years of Lula Lounge, Toronto's home to Latin and global music.
Celebrating 30 years on the FM dial. Stream CIUT or listen to recent shows at www.ciut.fm.